RCF.
Bonjour chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de Paroles Protestantes. Comme chaque premier dimanche du mois, nous parlons de la prière selon la demande des disciples à Jésus. Seigneur, enseigne-nous à prier. Dans la prière du Notre Père, Jésus suggère à ses disciples de prier ainsi. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous verrons ensemble comment comprendre cette partie de la prière, ce que la Bible nous enseigne sur la tentation et comment nous pouvons gérer nos propres tentations. Nous sommes ensemble durant 25 minutes.
Paroles protestantes sur RCF Anjou.
C'est Jean-Pierre Vanini qui vous présente cette émission en compagnie de Daniel et Bernard Delépine et de Jean-Didier Rousseau. Daniel, vous êtes active à la maison de prière, la maison des parfums à Angers. Jean-Didier, vous êtes responsable d'un groupe de prière et d'études de la Bible à Chemelier.
Oui.
Bernard, vous êtes le pasteur de l'église protestante baptiste située 17 rue du Colombier à Angers et vous êtes aumônier protestant au CHU et au Sésame.
C'est bien ça.
Bonjour à chacun tout d'abord.
Bonjour.
Bonjour.
Bernard, la formulation de cette sixième demande du Notre Père a changé récemment. Vous qui êtes pasteur, pourriez-vous nous dire pourquoi ?
Oui, la formulation a changé officiellement le 3 décembre 2017. Elle avait été adoptée par une instance catholique en juin 2013, sauf erreur. La formulation qui disait « ne nous soumets pas à la tentation » est devenue « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Si j'ai bien compris, le but recherché était de ne pas laisser entendre que c'est Dieu qui nous soumet à la tentation. Pour prier le Notre Père en commun, forcément, il est préférable d'avoir les mêmes paroles. Mais il est aussi possible de traduire ce verset autrement. Personnellement, j'aime bien la traduction du Semeur qui dit « Garde-nous de céder à la tentation », que je trouve plus simple. Il n'y a là aucune équivoque sur ce que Jésus voulait faire comprendre à ses disciples.
Dit comme ça, on réalise qu'il y a plusieurs interprétations possibles. Jean-Didier ?
Oui, on s'étonne de ces différences de sens biblique, mais elles existent aussi en français. Dans les dictionnaires français, le mot « tentation » a plusieurs sens. L'un parle de l'attrait vers quelque chose de défendu par une loi morale ou religieuse, bon, on appelle ça le péché par exemple. Un autre, la tentation, c'est tout ce qui attire ou crée le désir, l'envie qui appâte. On voit en Luc 4, Jésus est tenté dans le désert, mis à l'épreuve, précise plusieurs traductions. Jésus revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit au désert, où il fut mis à l'épreuve par le diable pendant 40 jours. S'ensuit la description des diverses tentations dont il est l'objet.
Donc Jésus n'a pas été tenté qu'une seule fois.
Et non, pas qu'une seule fois, Jean-Pierre. Et car à la fin du récit, l'évangéliste Luc précise, après avoir achevé de tenter Jésus de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. En fait, Jésus a été tenté tout au long de sa vie terrestre, comme nous le sommes, nous aussi, d'ailleurs.
Puisque nous sommes tentés, pourquoi et depuis quand, Daniel ?
Alors, la tentation remonte dès le début de la Genèse. Dieu avait donné cet ordre à Adam. Tu peux manger les fruits de n'importe quel arbre du jardin, sauf de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais voilà que le tentateur vient troubler Adam et Ève en semant le doute. Dieu a-t-il vraiment dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Si on faisait du théâtre, on pourrait faire dire au tentateur « Mais les amis, vous avez certainement mal compris, vous ne mourrez pas du tout. Dieu le sait très bien. Dès que vous en aurez mangé, comme lui, vous serez capable de savoir ce qui est bon ou mauvais. » Là, le diable sème le doute. Il insinue que Dieu les trompe, qu'il ment afin de garder pour lui la connaissance du bien et du mal. Le doute ayant fait son œuvre, nous connaissons la suite. La femme vit que les fruits de l'arbre étaient agréables à regarder, qu'ils devaient être bons et qu'ils donnaient envie d'en manger pour acquérir un savoir plus étendu. Ève en prit un et en mangea, puis elle en donna à Adam, qui en mangea lui aussi. Le diable a réussi son coup, le couple est tombé dans le panneau, il a passé outre l'ordre, le conseil du Créateur, qui lui savait quelles seraient les conséquences. C'est ce qu'on appelle la chute. Chute parce que l'homme a voulu se hisser à la hauteur de Dieu, être son égal. Le diable a reproduit ce que lui-même avait fait. Le couple a voulu acquérir le savoir et la connaissance, mais à quel prix ?
Justement, quel est le prix ?
Voilà, le prix est très lourd. Je pense que le prix le plus élevé fut la rupture de la relation entre le couple et Dieu le Père. Souvenez-vous, Dieu venait discuter, échanger avec eux tous les jours. Il y avait une amitié, une complicité entre eux. Je ne sais pas s'ils riaient ensemble, mais pourquoi pas. Il semble qu'il y avait une attente de part et d'autre à vivre ces moments d'amitié. À vouloir être l'égal de Dieu, leur orgueil a provoqué un séisme, rompant du même coup leur relation d'amour et d'amitié quotidienne. C'est de cette séparation que Dieu parlait lorsqu'il avait dit « Le jour où tu en mangeras, tu mourras ». C'était surtout une mort spirituelle dont Dieu parlait.
Oui, il faut dire que c'est vraiment une catastrophe pour l'humanité, hein, parce qu'à partir de là, le péché est entré dans le monde. Tiens, au passage, le mot péché veut dire manquer la cible ou viser à côté. Le couple est passé à côté de cet amour et de cette relation d'amitié dont parle Jean Didier. La mort est entrée, je devrais même d'ailleurs dire les morts, parce qu'il s'agit de la mort spirituelle et de la mort physique. Oui, la mort est entrée dans l'humanité avec son lot de violence, de guerre, de haine, de trahison et de peur, et j'en passe. Hein. Tout ça, ça n'existait pas plus d'ailleurs que la maladie ou les handicaps. C'est la pire catastrophe que le monde ait connue.
Et si je peux ajouter une autre catastrophe ? C'est aussi l'impact plus méconnu par ce choix ancestral. Il revient sans cesse d'ailleurs depuis quelque temps. C'est celui de l'écologie. Figurez-vous que la même planète Terre a été impactée par le péché. C'est l'apôtre Paul qui l'écrit aux Romains. La création a été soumise au pouvoir de la fragilité. La création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage. Dès l'origine, une des fonctions de l'homme était de bien gérer la Terre. C'est loupé. Mais on ne peut se défausser aujourd'hui sur la faute de nos aïeux. Chacun de nous est aussi responsable.
Merci Daniel. Avant de poursuivre notre émission, écoutons maintenant Dan Luiten nous interpréter « Sonde-moi, ô Dieu ». Reste avec nous, nous revenons dans quelques instants.
Oh, sonde-moi, ô Dieu. Et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Oui, sonde-moi, ô Dieu. Regarde si je suis
tell me, dear, oui, conduis-moi, et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité.
Suite de notre émission Paroles protestantes sur RCF Anjou, en compagnie de Daniel, Jean-Didier et de Bernard. Nous parlons de la prière, ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Une question importante me vient en tête. Qu'Adam et Ève aient péché, ok, mais alors pourquoi est-ce toute l'humanité qui en paie les conséquences ?
Eh bien, pour une compréhension assez simple, prenons l'exemple de l'ADN. On sait maintenant reconnaître le lien de parenté du fait de la transmission filiale d'une génération à une autre, ou d'une ethnie, ou d'un peuple à un autre. C'est la transmission des gènes. C'est exactement ce que dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, et le péché a amené la mort. Ainsi, la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc on peut dire que l'ADN du péché, si on peut parler comme ça, se transmet donc de génération en génération.
Mais alors, n'y a-t-il pas eu une erreur de la part de Dieu dans cette histoire-là ? Il aurait pu faire en sorte qu'il n'y ait pas cet arbre de la connaissance, non, Bernard ?
Ah ben, il faut considérer la tentation permise par Dieu comme un accès à la liberté de choix. Hein. Certains crient au scandale contre Dieu en déclarant que, dans sa connaissance de ce qui allait arriver, Dieu aurait pu ou aurait dû éviter à l'homme d'être tenté, et pour ce faire, de ne pas planter l'arbre de la connaissance. Mais Dieu, le Père, a justement opté pour le libre choix. Par amour et aussi par respect pour nous. Il dit à chacun, je ne te force pas à croire en moi, ni à m'aimer, ni à suivre mes commandements. Tu le peux si tu le veux. Alors il y a un mot qui rime avec celui de liberté, c'est celui de la responsabilité, évoqué tout à l'heure par Daniel. Libre, oui, mais responsable aussi. Hein. Je souligne d'ailleurs au passage encore que il y avait des milliers d'autres arbres, et il n'y en avait qu'un seul, un seul sur des milliers dont il ne fallait pas manger le fruit. Après, que l'homme reproche à Dieu sa manière de faire, c'est pathétique. Hein. Ceux qui crient que Dieu devrait contraindre ou ne pas permettre sont aussi les premiers qui crieraient à la dictature de Dieu si Dieu les obligeait, eux, à quoi que ce soit. Mais bon, on a tous conscience que l'homme n'est pas à une contradiction près. Hein.
C'est sûr, Bernard. Mais revenons à la tentation. Daniel, comment ça se passe de nos jours ? Nous n'avons pas un serpent persifleur sur notre épaule, rassurez-moi.
Non, je vous rassure, Jean-Pierre. Heureusement, nous n'avons pas de serpent sur notre épaule. Et il faut peut-être souligner qu'il n'est pas l'auteur de toutes nos tentations. On se débrouille malheureusement bien tout seul. Votre question me fait penser à un slogan que nous avons certainement encore tous en tête. Dites oui à vos envies. Avec un tel slogan, il est difficile de ne pas céder à ses envies. D'autant plus lorsqu'on vous dit « profitez-en tout de suite, vous n'avez rien à payer avant l'année prochaine ». Comme dans le jardin d'Éden, c'est une demi-vérité, ou un demi-mensonge, comme vous voulez, car à la fin, il faut toujours payer, et parfois s'endetter.
Oui, le processus est souvent le même. L'envie naît avec une petite voix. Écoute, il te manque quelque chose, regarde comme c'est beau, regarde comme c'est bon, essaie, touche, goûte. Tu le veux, ben fais-le, tu le peux, fais-le aussi. L'envie provoque un manque qui s'érige en besoin. J'en ai besoin. Puis rapidement, ce besoin provoque une insatisfaction, une déception de ce que nous avons déjà. Nous cherchons à obtenir mieux, ou en tout cas cette illusion de toujours chercher mieux.
Ouais, pour ajouter de l'eau au moulin, je citerai le verset de l'épître de Jacques, qui décrit très bien d'ailleurs le processus. Hein, je le cite pour ne pas me tromper. « Si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté et il ne tente lui-même personne. En réalité, tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège à ses propres désirs. Et quand on se laisse faire, il donne naissance au péché. Et puis quand le péché a grandi, ben il donne naissance à la mort. Ah, je trouve que Jacques a plutôt bien cerné la tentation.
Très bien, mais quelle est la solution ? Y a-t-il un ou des moyens pour résister à la tentation ?
Alors bien sûr qu'il y a des solutions, parce que face à la tentation, nous avons toujours le choix d'y succomber ou non. On pourrait reprendre l'idée du mois dernier qui était, souvenez-vous, « Pourquoi dire notre Père qui est aux cieux si tu ne le considères pas comme ton Père et si tu ne te considères pas comme son enfant ?» Ici, on pourrait dire « Comment peux-tu dire « Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal » si toi, tu te places délibérément devant la tentation ?»
Oui, c'est très juste. Et sans être moraliste, mais pour prendre l'exemple concret d'un fléau de notre temps, un des meilleurs moyens de ne pas succomber à la pornographie, par exemple, sur Internet, c'est de mettre une sécurité parentale et puis et de perdre le code d'accès tant qu'à faire.
Solution radicale, Jean-Didier.
Oui, c'est savoir se protéger. C'est une solution efficace contre tout type de tentation. C'est le conseil que Dieu donne à Caïn qui jalousait son frère Abel au point de vouloir le tuer. Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre tapi derrière ta porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Sois le plus fort, sois plus fort que le péché. Dit autrement, ne te laisse pas dominer.
Oui, le problème, ce n'est pas la tentation en elle-même, c'est d'y succomber. Le meilleur moyen de ne pas y succomber, c'est de se protéger, comme le dit Jean-Didier, de dire non tout de suite. Le drame avec Ève dans le jardin, c'est qu'elle a accepté de discuter avec le tentateur. On ne discute pas avec la tentation, sinon on risque de perdre. Il faut dire un non résolu, ferme, dès le début, ferme en tout cas.
Parole protestante sur RCF Anjou.
Tout à l'heure, Bernard, vous disiez « on ne discute pas avec la tentation ». Le problème, c'est que la tentation, par définition, c'est toujours tentant.
Oui, c'est vrai, Jean-Pierre. Comme nous le disions, lorsque nous sommes tentés, nous subissons une attirance. Il arrive que malgré nos désillusions, nous recommençons à nouveau, comme si nous n'avions rien appris. Nous devrions toujours nous rappeler que la tentation, c'est comme boire un breuvage qui sent bon, qui peut avoir une agréable sensation en bouche, mais qui se transforme vite en vinaigre infect et qui nous tord les boyaux.
Ça ouais. Fait mal. Mais il n'y a personne pour nous prévenir, Daniel ?
Bien sûr qu'il y a de la prévention, mais on ne veut pas toujours l'écouter. Pour prendre une image que nous connaissons tous, lorsque les feux tricolores sont au vert, on passe. À l'orange, on s'efforce de s'arrêter, mais il faut avouer qu'on accélère quelquefois. Au rouge, on pile et gare à ceux qui passent tout de même à leur risque. Concernant la tentation, nous avons aussi ces feux tricolores. Ces feux orange et rouge qui nous alertent, c'est notre conscience. Vous savez, c'est la petite voix qui nous avertit, très bien imagée par Jiminy le Cricket dans Pinocchio. Cette conscience fait partie intégrante de nous depuis l'origine des temps. Mais tout comme Pinocchio, nous voulons la faire taire parce qu'elle nous dérange. Pourtant, c'est cette conscience qui est notre réel avertisseur.
Et nous l'avons dit tout à l'heure, que Dieu aussi nous avertit, comme il l'a fait pour Adam, pour Ève, Caïn et bien d'autres. Il veut nous préserver de succomber à la tentation, nous éviter de vivre des difficultés bien inutiles. Mais il y a des personnes qui trouvent Dieu ringard avec ses commandements d'un autre temps et... En tant que parents, nous aussi, nous souhaitons préserver nos enfants, nous les prévenons des dangers, mais ils font bien comme ils veulent, et surtout quand ils grandissent. On retrouve là Dieu qui nous prévient, voudrait nous aider, et nous, bien souvent, nous n'en faisons qu'à notre tête.
Vous dites que Jésus peut nous aider lorsque nous sommes tentés, mais comment peut-il nous aider, Daniel ?
Ça me fait penser à un texte de la lettre aux Hébreux qui nous dit, je transcris un peu pour une compréhension plus simple, « Jésus a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. » Ce texte nous dit que Jésus a été tenté en tout point comme nous. Dès lors, il comprend ce que l'on vit parce qu'il est passé par là et peut et veut nous secourir. Nous, chrétiens, nous avons le privilège de connaître Jésus, d'avoir foi en lui. Si nous regardons à lui, nous allons alors aussi nous détourner de la tentation en tournant les regards vers lui.
Ce thème de la tentation n'est pas très joyeux. Il est même un peu compliqué. En tant que pasteur, qu'en pensez-vous, Bernard ?
Ah, je suis d'accord avec vous, Jean-Pierre. Ce n'est pas le thème le plus joyeux. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que on l'évoque peu souvent. Hein. Mais je vous l'assure, il y a des côtés très satisfaisants concernant la tentation.
Pourriez-vous développer ?
Ah ouais, il faut réaliser que la tentation provoque en nous des tensions. Je me laisse faire ou je résiste ? Je me laisse faire ou je résiste ? Lorsqu'on se laisse faire par la tentation et qu'on y succombe, ça produit en nous de la culpabilité, du remords, un sentiment d'échec, voire même de la dépréciation de soi. Hein. Mais à l'inverse, lorsqu'on a résisté, la satisfaction de soi provoque une certaine joie. Toujours l'apôtre Jacques en parle aussi, lui, dans son épître. « Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra une couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. » Alors, je ne sais pas à quoi correspond cette couronne, mais ça ne peut être que super, non ?
Oui, mais qu'est-ce qui se passe si on n'a pas su résister ?
Alors, on chute, on tombe, comme nous l'avons vu pour le premier couple. Mais après la chute, le Seigneur veut nous relever. Je cite l'apôtre Jean qui écrit dans sa première lettre « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons. Et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons les péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » L'image qui va bien avec ce texte, c'est l'apprentissage de la marche de notre enfant. Lorsqu'il tombe, on le relève.
Mais c'est un peu facile, non ? Vous ne trouvez pas ? On pêche, puis on se fait pardonner, puis on recommence, et ainsi de suite.
Oui, je comprends bien ce que vous voulez dire, non ? Mais parce que si on reprend l'apôtre Paul dans sa lettre aux Galates, il est clair sur le sujet. « Vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. » Et l'apôtre Pierre d'ajouter « Conduisez-vous comme des personnes libres, mais votre liberté ne doit pas devenir comme une couverture pour cacher des actes mauvais. » Conduisez-vous plutôt comme des serviteurs de Dieu.
Bernard, vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, il me semble que nous ne pouvons pas terminer cette émission sans apporter de l'espérance. Les personnes soumises, bien involontairement, à tout genre d'addiction et qui retombent régulièrement, ont besoin de cette espérance. J'entends des gens en accuser d'autres en leur disant « Mais vous n'avez pas de volonté pour vous en sortir. Allez, faites un effort, bouge-toi. » Mais la volonté seule pour s'en sortir ne suffit pas souvent. Hein. Je cite ici une parole de Jésus que rapporte Marc au chapitre 2. « Les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Et je ne suis pas venu, moi, pour appeler ceux qui s'estiment justes, mais pour ceux qui se sentent pécheurs.
Oh, » sauver les pécheurs, voilà une idée magnifique.
Oui, comme vous dites, Jean-Pierre, Jésus est non seulement il compatissant, mais il propose concrètement son aide, son secours à ceux qui vivent ce type de difficultés. Le secours passe par la prière. Il ne faut pas rester prostré dans sa culpabilité, mais crier à lui, lui demander de l'aide. Et demander de l'aide à Jésus, mais aussi demander de l'aide par la prière à des personnes qui peuvent apporter un accompagnement. C'est ça qu'il faut faire, il ne faut pas rester tout seul.
Oui, je peux dire par expérience que Jésus libère vraiment des tentations, des addictions, et qu'il accueille toujours. Il y a d'ailleurs une autre parole de Jésus que je trouve très touchante et qui va un peu dans ce sens, qui est rapportée par l'évangéliste Jean, qui dit, et c'est Jésus qui parle, Jésus dit « Je ne repousserai jamais celui qui vient à moi ».
Merci Bernard. Notre émission touche à sa fin. Je vous propose de conclure par une parole encourageante. Daniel ?
Oui, alors je vais vous lire 1 Corinthiens 10, 13 selon la transcription de la parole vivante. Les tentations qui vous ont assailli jusqu'ici sont communes à tous les hommes. Aucune d'elles n'a dépassé les forces humaines. D'ailleurs, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas non plus à l'avenir que l'épreuve dépasse vos forces. Au moment de la tentation, il vous donnera la force d'y résister et il préparera une issue pour que vous en sortiez vainqueur.
Merci Daniel. Si je devais retenir deux idées fortes de nos échanges, ce serait que nous avons la possibilité de faire face à la tentation sans y succomber et que si, malgré l'aide de Jésus, nous y tombons quand même, il est là pour nous pardonner et nous relever. Si vous avez une question concernant cette émission, vous pouvez nous écrire à églisebaptiste.angers@gmail.com. Retrouvez notre émission podcast sur RCF Anjou. Bonne prière et à bientôt.